Chapitre 5 Extrême dans le régime. Les promoteurs d'une réforme impopulaire devraient, avant tout, être conséquents. On ne doit pas s'étudier à établir des barrières entre soi-même et ses semblables. Il faut au contraire se rapprocher d'eux autant que possible pour les amener à adopter les principes qu'ont appris compagnie soi-même. Les partisans de la réforme hygiénique devraient la présenter sous le jour le plus favorable à leur propre table. Ce sera la meilleure recommandation de leurs principes pour tout esprit ouvert. Certaines personnes s'opposeront systématiquement à toute réforme dans ce domaine, parce que cela contrecarre leurs goûts et leurs inclinations. Elles ne veulent ni écouter la raison ni se préoccuper des lois de l'hygiène. Ces personnes traiteront d'extrémistes tous ceux qui abandonnent les sentiers battus de la coutume. Mais que cela n'arrête personne dans la bonne voie de la réforme. Quiconque sera animé du même esprit que Daniel ne sera ni mesquin ni pédant, mais il tiendra ferme pour le bien. Tout en demeurant fidèle à ses principes dans le commerce avec ses semblables, il manifestera de la patience et de la largeur chrétienne. Lorsque les partisans de la réforme vont aux extrêmes, il n'y a pas lieu de s'étonner que l'on prenne leurs principes en aversion. C'est ainsi qu'on discrédite souvent sa propre foi. Ceux qui auront été témoins de ces inconséquences ne se laisseront plus persuader qu'il y a quelque chose de bon dans la réforme. Aussi les extrémistes font-ils plus de mal en quelques mois qu'ils ne peuvent en réparer durant toute leur vie. Ils font ainsi les affaires de Satan. Les extrémistes peuvent être partagés en deux classes, ceux qui ne vivent pas suivant les lumières que Dieu leur a accordées, et ceux qui sont arbitraires dans la pratique des idées étroites qu'ils se font de la réforme. Ces derniers sont incapables de tenir un juste milieu. La première catégorie a adopté la réforme parce que d'autres l'ont fait. Ces chrétiens, n'ayant jamais bien compris les principes de la réforme, sont peu stables. S'ils ne s'efforcent pas de bâtir sur un terrain solide en allant au fond des choses, ils marcheront à la lumière du flambeau d'autrui et feront sûrement fausse route. Quant à la deuxième catégorie, elle se fait une fausse idée de la réforme. Ses partisans se contentent d'aliments de qualité inférieure et insuffisants. Ils ne se préoccupent pas de rendre les mets appétissants. Si l'on renonce aux choses qui irritent l'estomac et ruinent la santé, il ne faut pas tomber dans l'autre extrême, car le corps doit être bien nourri. Bien des personnes qui ont besoin du régime hygiénique s'imaginent l'avoir adopté en vivant de bouillies, etc. Et elles sucreront fortement des aliments préparés avec du lait. Or, le lait et le sucre pris ensemble provoquent de la fermentation dans l'estomac et deviennent ainsi nuisibles. Du reste, il ne faut faire qu'un usage modéré de sucre, car s'il est pris en grande quantité, il peut devenir une source de maladie. D'autres personnes penseront qu'elles doivent manger une quantité déterminée de tel ou tel aliment, sans varier. S'il arrive que ce qu'elles mangent ne soit pas de la meilleure qualité, elles seront insuffisamment nourries. Il y a un réel bon sens dans la réforme hygiénique, mais les mêmes aliments ne conviennent pas à tout le monde. Ce qui sera sain et appétissant pour l'un ne le sera pas pour l'autre. Telle personne ne supportera pas le lait, tandis qu'une autre en fera sa principale nourriture. Les pois et les haricots secs ne conviennent pas également à chacun. Certains estomacs sont devenus si délicats qu'ils ne supportent pas même la farine grasse un peu grossière. Il est donc impossible d'établir une règle diététique invariable. Les idées étroites et les exagérations ont fait beaucoup de mal à la cause de l'hygiène. L'économie dans la cuisine peut être poussée trop loin. On obtient alors, au lieu du régime hygiénique, une alimentation insuffisante. Qu'en résulte-t-il? L'anémie. J'ai connu quelques cas très difficiles à guérir, dont l'anémie provenait simplement de la cause ci-dessus. Ces gens n'étaient pas pauvres, mais ils se conformaient aux idées erronées qu'ils avaient sur la réforme hygiénique. Jour après jour, ils mangeaient les mêmes choses jusqu'à ce que la dyspepsie et une débilité générale s'ensuivirent. Il en est qui prétendent que la réforme hygiénique ne leur convient pas. Mais il suffit de manger à leur table pour se convaincre que ce n'est pas la réforme hygiénique mais une mauvaise alimentation qui leur est nuisible. Hommes et femmes doués d'intelligence, apprenez donc à cuire. Je dis, hommes, car eux aussi doivent savoir apprêter une nourriture simple et hygiénique. Leurs affaires les appellent parfois là où ils ne peuvent pas obtenir une nourriture saine. Ils doivent passer des semaines et des mois dans des familles absolument ignorantes au sujet de ces choses, et c'est alors qu'ils pourront faire bon usage de leurs connaissances. Examinez un peu vos habitudes diététiques. Allez de la cause à l'effet, mais ne portez pas de faux témoignages contre la réforme hygiénique en suivant une ligne de conduite qui lui soit diamétralement opposée. Il ne faut pas négliger le corps ni en abuser, autrement on devient incapable de rendre à Dieu le service qui lui est dû. Je suis assurée que plusieurs hommes de talent sont morts parce qu'ils se sont négligés. Le premier soin de la ménagère doit être de fournir au corps une nourriture appétissante et fortifiante. Il vaut beaucoup mieux économiser sur les habits et sur le mobilier que sur la nourriture. La plupart des gens se trouveront bien de ne prendre que 2 repas par jour. D'autres, qui se trouvent dans des circonstances particulières, éprouvent le besoin de prendre quelque chose le soir. Dans ce cas, le dernier repas doit être très léger. Mais que personne ne s'imagine faire règle et pouvoir contraindre chacun à se soumettre à sa manière de faire. Il ne faut jamais priver l'estomac de ce qui est nécessaire à la santé, mais il ne faut pas non plus le surcharger. Il faut que l'appétit soit toujours sous le contrôle de la raison. Ne vous croyez pas tenu de charger votre table d'aliments malsains quand vous avez des visites. Il faut tenir compte de la santé de votre famille et de l'influence que vous exercez sur vos enfants aussi bien que des habitudes et des goûts de vos hôtes. Certains adeptes de la réforme hygiénique craignent toujours que leur nourriture, quelque simple et hygiénique qu'elle soit, leur fasse mal. Laissez-moi dire à ces personnes. Bannissez ces préoccupations, lorsque vous aurez imploré la bénédiction de Dieu sur vos aliments et que vous aurez mangé pour sa gloire, croyez qu'il a exaucé votre prière et tenez-vous en repos. La réforme hygiénique ne doit pas être traitée à la légère, mais, il ne faut pas la ravaler par des étroitesses. Il faut retenir fermement ce que l'on croit être bon. Daniel a été béni pour n'avoir pas trahi sa conviction du devoir. Nous serons aussi bénis si nous cherchons de tout notre cœur la gloire de Dieu.